Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission de Chant contre Chant, émission mensuelle sur le cinéma réalisée sur fréquence protestante par l'association Profil. Cette émission sera présentée par moi-même, Jacques Champeau, et animée par Françoise Wilkowski. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Par Jean Wilkowski. Bonjour Jean.
Bonjour tous.
Et par Yves Ballanger. Bonjour Yves.
Bonjour.
Alors cette dernière réunion avant l'été, enfin je devrais dire d'ailleurs au début de l'été, puisqu'on est déjà, sera consacrée, comme souvent, à des films assez variés. Les trois films que nous avions choisis nous emmènent dans des pays et des genres très différents. D'abord pour la géographie, nous allons passer de l'Irak au Mali en passant par Paris. Et pour les genres, nous allons passer du film de guerre au thriller social en passant par la comédie sentimentale. Donc nous parlerons successivement de The Wall, de l'américain Doug Liman, de L'amant d'un jour, du français Philippe Garrel, présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, et de Voulou, du franco-malien Daouda Koulibaly. Alors commençons par The Wall, de l'américain Doug Liman ou Liman, je ne sais pas. À vrai dire, nous avons un peu hésité à choisir ce film, qui est un film de guerre, et nous nous sommes demandé s'il avait vraiment sa place dans une émission sur fréquence protestante. Mais nous avons décidé de le retenir car, au fond, un film de guerre peut être, et c'est le cas ici, une dénonciation de la guerre. Et nous l'avons aussi choisi car sa forme est très particulière et est intéressante au plan cinématographique. Alors, un mot d'abord sur le réalisateur, c'est Doug Liman. Il est né en 1965 et a un parcours un peu en zigzag. Il se fait d'abord un nom dans le cinéma indépendant, avec deux films appréciés à la fin des années 90. Puis il passe au cinéma commercial et au blockbuster dans les années 2000, là avec des résultats très variés. Alors son premier film, La mémoire dans la peau avec Matt Damon, est un immense succès. De même que son second, Monsieur et Mrs. Smith avec Brad Pitt et Angelina Jolie en 2005. Mais Jumper en 2007, dans le genre du film fantastique, est un échec total, tout aussi bien critique que commercial. Alors, il convainc de nouveau la critique avec Fair Game, qui avait été présenté à Cannes en 2010, un film d'espionnage au budget relativement réduit. Une nouvelle incursion dans les blockbusters en 2014, cette fois-ci de science-fiction avec Edge of Tomorrow, qui se solde par un, disons, demi-échec commercial. Alors, Françoise, que faut-il penser de The Wall? Est-ce que c'est un bon cru?
Alors, oui, c'est un très bon cru. The Wall, le mur en français, raconte l'histoire de deux GI qui arrivent dans le désert irakien et sont aussitôt pris pour cible par un tireur embusqué. Le premier soldat, Shane, est grièvement blessé et tombe dans la poussière sans pouvoir se relever. L'autre, Isaac, a reçu une balle dans le genou et se réfugie derrière un pan de mur. C'est lui le véritable héros et on va assister à sa peur de mourir et à ses efforts désespérés pour essayer de s'en sortir alors que le sniper invisible le tient quasiment en joue, plein de haine et cruel. C'est un film qui respecte les trois unités, une seule journée, un même lieu et une même unité d'action. Et il est intéressant à plusieurs titres. Avant tout, on y voit la tragédie d'un soldat, celle que doivent connaître par exemple en ce moment ceux qui sont à Mossoul. Il est blessé donc, toujours lourdement équipé, sale, couvert de boue et de poussière, et réfugié derrière un mur sans ombre, sous un soleil brûlant et avec un vent sec qui soulève le sable. Son copain est à terre, perd son sang. Il est impossible de joindre la hiérarchie, la radio est cassée. À notre époque où peu d'images des guerres nous parviennent, on est avec ces images confronté au sort misérable d'un soldat sous le feu. La performance de l'acteur américain Aaron Taylor Johnson est tout à fait remarquable pour exprimer l'agonie progressive du soldat ou sa souffrance quand, par exemple, il doit s'extraire lui-même la balle du genou. Le réalisateur varie beaucoup les cadrages. Par exemple, en très gros plan, il va filmer l'œil d'Isaac, rougi par le soleil, la poussière et la souffrance, un œil d'être vivant, mais qui va peut-être bientôt mourir. Il y a aussi des plans moyens autour du mur, très expressifs, comme cette scène où un corbeau charognard pique avec son bec dans la plaie sanguinolente d'Isaac. Il y a aussi des plans d'ensemble qui rappellent des séquences de western.
Oui, et toujours la menace qui plane, c'est le sniper, mais au fond, on ne sait pas grand-chose de lui.
Ce sniper est invisible et imprévisible, mais vu la provenance de ses tirs, Isaac et Shane finissent par deviner qu'il se trouve au milieu d'un énorme tas d'ordures. Ne dévoilons rien, mais il va s'avérer véritablement diabolique. Et cela lui est facilité par le fait qu'il voit tout depuis sa cachette, alors qu'Isaac, avec sa lunette fêlée, ne voit que du flou. Cette confrontation avec un adversaire invisible n'est pas sans rappeler les deux camions du film de Spielberg, Duel. Mais ici, ce sont aussi des voix qui s'affrontent. Car un contact radio a fini par s'établir entre les deux protagonistes et l'Irakien va jouer avec lui sans pitié. Il va jouer avec l'Américain sans pitié en le provoquant de toutes les manières, clairement pour se venger de l'occupation américaine en Irak. Ainsi, il explique à Isaac qu'il l'a laissé exprès en vie pour qu'il meure progressivement à la fin de la journée et même qu'il a tiré exprès sur sa gourde et son antenne radio. Maniant le chaud et le froid, il s'adresse à lui par son diminutif « Ise » et parfois même encore plus affectueusement « Isaac ». Et il confie lui-même être normalement un professeur de l'université de Bagdad. On peut deviner que c'est un spécialiste de littérature, car il nargue Isaac en citant longuement des vers inquiétants du poème d'Edgar Poe, Le Corbeau. Jamais plus, jamais plus.
Et alors face à ça, comment réagit Isaac ?
Alors le pauvre Isaac ne comprend pas bien ce qui se passe, mais il sent un piège et il essaie de ne pas répondre aux questions de l'Irakien. Sauf que ce dernier menace alors de décapiter Shen. Mais n'en disons pas plus, c'est un film captivant, magnifiquement filmé, avec une musique discrète qui soutient bien les moments d'intensité. La fin est surprenante et bien amenée. En conclusion, c'est un très bon film contre toutes les horreurs de la guerre.
Oui, et c'est surtout un film très surprenant, parce qu'il a une extraordinaire économie de moyens, quoi, par rapport à un film classique. On a souvent, les films de guerre, on a souvent l'image de films avec des milliers de figurants. Là on est vraiment avec pratiquement rien. Yves, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Oui, je partage assez ce point de vue. Effectivement, je crois que ce qui est très fort dans ce film, c'est montrer la guerre avec un seul personnage et la voir, sentir cette guerre sur son corps. Sur son corps, sur ses mouvements, sur ses gestes. Vraiment, il vit la guerre et il est vraiment lui-même en mode survie, quoi. On est avec lui en mode survie. Voilà, après j'ai une réserve, mais on pourra peut-être en reparler.
Moi j'ai beaucoup aimé ce film, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, et c'est vrai que c'est tellement loin des films testostéronés, américains en principe, enfin,
pas que, toujours,
que,
mais...
ça fait vraiment plaisir de voir un film on a l'impression que ça traduit un peu la réalité de la guerre, l'horrible réalité de la guerre. Et donc, le fait que ça soit un film de guerre anti-guerre, c'est plutôt sympathique.
Oui, en fait, c'est presque du théâtre. Je dirais qu'on pourrait presque monter ça au théâtre. Enfin, oui. Pas tout, bien sûr, oui, parce qu'il y a des effets cinématographiques qui sont importants. Mais je dis, ce gars coincé derrière ce mur, finalement, c'est presque une situation théâtrale. Yves, tu avais des réserves, réserves.
Après, moi, ma réserve porte surtout sur l'échange qui s'instaure entre... entre ce fameux sniper et cet Américain. C'est un échange qui est relativement restreint. On passe beaucoup de temps, simplement, où on entend un peu, d'ailleurs, l'Américain râler. Il y a beaucoup de fuck.
Voilà.
Et alors, dans les quelques échanges qui s'instaurent, je trouve que là, c'est un peu caricatural et un peu plein de poncifs. Il y a d'un côté ce fameux sniper, professeur d'université, très cultivé, et de l'autre côté cet Américain inculte. Et bon, je trouve que les dialogues relèvent beaucoup de poncifs et caricature un peu la situation politique irakienne.
L'Irakien est quand même décrit d'une façon très négative. Enfin, je veux dire, il est très antipathique, finalement, l'Irakien.
Oui et non. Et je suis assez d'accord avec Yves. Je pense qu'il est allé un petit peu trop loin dans la dramatisation dans ce dialogue. C'est-à-dire que ce dialogue, à mon sens, est un peu tiré par les cheveux, y compris ses conditions, et puis la perversité du personnage. Au fond, il est là pour tuer, il n'est pas là pour faire de la dentelle ou du sentiment. D'un autre côté, je pense que c'était une manière pour le réalisateur, pour l'auteur, d'introduire justement, d'en dire un peu plus sur les horreurs de la guerre, quoi. Donc c'était au-delà de ce qu'il nous montre. Je pense qu'il y a un côté effectivement un peu artificiel dans ce dialogue, Mais bon, il a peut-être ses raisons.
Oui, enfin, il montre aussi que l'Irakien qui est complètement perverti par ses, omnubilé par sa vengeance, par le fait qu'il est Irakien et qu'il veut bouffer de l'Américain, il est quand même, c'est assez bien foutu ça par contre.
Oui. Oui, puis alors on voit le soleil décliner au fur et à mesure de la journée, avec l'Irakien qui est de plus en plus fatigué, l'Américain qui est de plus en plus fatigué. Enfin, il y a des petites choses qui sont bien vues, bien filmées. Moi, je trouve que ça rend crédible la scène.
Oui, enfin, moi, je ne partage pas tout à fait ce point de vue qui est de faire de l'Irakien le méchant, d'une certaine façon. C'est lui aussi qui porte la critique, à la limite, revendiquée par le cinéaste sur cette fameuse guerre déclenchée par les États-Unis. C'est quand même, il dit, à un moment donné, il dit « la guerre n'est pas finie ». La guerre n'est pas finie. Et c'est relativement explicite, cette idée qu'il fait passer, que si... le terrorisme djihadiste qui va suivre est une conséquence directe de cette guerre. Et je trouve que là, on est un peu dans le simplisme.
Si j'ai dit que l'Irakien était antipathique, ça ne veut pas dire que le Isaac est sympathique. Au contraire, même. Il est aussi antipathique que l'autre.
L'Irakien est antipathique parce qu'il est vu du point de vue de l'Américain. On adopte le point de vue de l'Américain là, pendant tout le film. Il est en train de mourir.
Non, mais tu as parlé du western aussi dans la présentation. C'est vrai que là aussi, on est dans le héros de western qui est visé par des gars sur les toits et qui se dit d'où ça va tirer. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce film, c'est la vision vraiment cauchemardesque qui donne de l'hypertechnologie militaire américaine. Parce qu'au fond, ces gars-là, c'est presque des robots, ils sont chargés de tas de trucs, et on a l'impression que tous ces tas de trucs ne leur servent à rien. Hein, les radios ne fonctionnent pas, l'uniforme les fait suffoquer dans ce désert, ils n'ont même pas d'eau. Enfin, on a une vision qui est à 100 lieues de beaucoup de films qu'on a vus, même du Sniper de Clint Eastwood, qui était quand même critique. La technologie marchait. Là, la technologie, on a l'impression qu'elle ne fonctionne pas et qu'elle est même détournée par le sniper irakien. Donc, on a non seulement une vision de critique de la guerre, mais une vision vraiment très critique de la technologie, pratiquement, de cette guerre. Bon, enfin, en tout cas, c'est un film qui est assez original dans son truc. On va passer à quelque chose de complètement différent, parce qu'il faut quand même un peu souffler après un film comme ça. Donc, on va passer à un film plus quotidien qui nous ramène en France avec L'amant d'un jour de Philippe Garrel. Alors, Philippe Garrel, c'est un grand réalisateur français. Il est né en 48, il est auteur de près d'une trentaine de longs métrages, très apprécié des critiques, enfin, en tout cas de certains critiques, assez peu connu du grand public. Il s'est fait connaître avec L'enfant secret, qui a eu le prix Jean Vigo en 82. Et il a reçu deux fois dans sa carrière le Lion d'argent à Venise. Une fois pour J'entends plus la guitare en 95 et en 2005 pour Les amants réguliers. Ces dernières années, il creuse une veine personnelle et assez intimiste dans ses films, très souvent en noir et blanc comme celui-là, et souvent cité un peu comme un disciple de Godard. Alors, Jean, finalement, de quoi nous parle cet amant d'un jour ?
Eh bien, dès les deux premières scènes, nous sommes dans le cœur du sujet. La première, dans un couloir d'université, une étudiante, Ariane, 23 ans, dévale les escaliers et attend son professeur de philosophie, Gilles. Ils vont tous deux dans les toilettes des professeurs et font l'amour debout contre la porte et y prennent beaucoup de plaisir. Juste après, c'est Jeanne, la fille de Gilles, 23 ans aussi, qui pleure à chaudes larmes dans la rue près de ses valises, car son ami vient de la mettre à la porte de chez lui. La différence entre les cris plaisir de l'une et les sanglots de l'autre est très impressionnante et va orienter la suite de l'intrigue.
Là, on est bien dans l'univers de Garrel.
Ah oui, tout à fait, oui. Et en particulier, ça rappelle son dernier film, L'ombre des femmes. Parce que Garrel, depuis 50 ans, filme le sentiment amoureux et ses excès, avec, dit-on, un brin d'autobiographie. Les personnages principaux sont ici les deux jeunes filles, amies, mais quand même un peu concurrente quand il s'agit d'attirer l'attention de Gilles, le père de l'une et l'amant de l'autre. L'intérêt du film repose sur les relations entre les deux jeunes femmes, qui ont des approches bien différentes du sentiment amoureux. Et leur amitié croît à mesure qu'elles échangent des confidences. Ariane explique qu'elle a dragué Gilles avec constance pendant un trimestre entier avant qu'il ne succombe. Jeanne est bien différente et pense s'être fait abuser par l'amour. Et elle ne se remet pas de sa séparation d'avec Matteo. Et elle lui téléphone sans vouloir lui parler. Jeanne croit en amour exclusif alors qu'Ariane se laisse guider par son instinct et son désir.
Et alors comment comprends-tu le titre du film « L'amant d'un jour » ?
Ah, effectivement, je me suis posé la question pendant longtemps et je pense que cela fait allusion au marivaudage d'Ariane qui ne veut pas que ses tromperies durent plus d'un jour. Par exemple, après une nuit passée avec un amant de passage, Ariane le quitte après lui avoir écrit simplement sur un miroir avec son rouge à lèvres « Plus jamais ça ». Devant Gilles, témoin un peu dépassé par les deux femmes, on verra celle-ci aller jusqu'au bout de leur logique. Jeanne, qui est, soit dit en passant, jouée par la propre fille de Garel, Esther Garel, ira de la rupture à l'amour retrouvé, et Ariane, au contraire, de l'idylle à la rupture. Alors que Gilles, qui ne supporte plus, de plus en plus difficilement les infidélités de sa maîtresse, restera seul. Rythmé par la voix off d'une narratrice, L'amant d'un jour est tourné dans un magnifique noir et blanc à la manière des films de la Nouvelle Vague, avec des plans sages sans effet de modernisme. Ici, pas de très gros plans ni de caméra à l'épaule, mais de longues marches dans les rues. Garel reste volontiers flou sur l'époque à laquelle se situe l'action. Est-ce actuel ou bien plus ancien, comme on pourrait le croire quand, lors d'une conversation dans un café, les trois personnages discutent de la guerre d'Algérie. Mais restons sereins et disons que c'est un beau conte cruel amoureux pour les amateurs de Garel et de sa famille.
Alors Yves, je crois que tu es amateur de Garel.
Oui, enfin, je connais pas toute l'œuvre de film Garel, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, notamment ses récents films, et particulièrement ses films en noir et blanc.
Je trouve ça à la Godard.
Comment ?
À la Godard.
À la Godard, oui, si on veut, oui. Bien que, bon, je suis pas sûr que je le mettrais dans la,
oui, c'est
dans
pas
la même école, tout à fait, même si c'est vrai que Garel se réclame beaucoup de Jean-Luc Godard. Hein. Mais bon, j'aime beaucoup parce que à chaque fois, il y a une surprise. On croit, quand on voit un film de Garel, on croit avoir fait le tour, notamment du désir amoureux, du désir sexuel aussi. Hein, parce que ce film aussi joue beaucoup sur cette dualité, désir amoureux, désir sexuel. À chaque fois, on pense avoir fait le tour, et puis à chaque film, on se dit, mais non, il y a encore d'autres chemins qui n'avaient pas été explorés. Et là, en particulier, ce qui est intéressant pour moi, en tout cas, c'est que c'est vraiment ces deux jeunes filles qui sont au cœur du film. Hein. Alors que souvent, dans les films de Philippe Garel, c'est un couple de même âge, adulte. Et là, on a un adulte qui est perdu, en fait, face à deux jeunes filles. Et je crois que c'est ça qui est intéressant.
Ouais, il est assez effacé, hein, Gilles, le personnage de Gilles.
Oui, enfin, il n'est pas... Il existe est là, quand même. Là. Françoise, tu as...
J'étais sensible au charme et à la poésie de ce film, évidemment. Mais en fait, j'ai été plus sensible à la forme du film qu'aux idées proprement dites, les relations amoureuses, amicales ou familiales. Ça m'a semblé relativement banal. Peut-être que c'est finalement un point de vue masculin qui émerge du film. Mais bon, les gros plans sur les visages avec les taches de rousseur de Louise Chevillotte, la nonchalance assez 68arde d'Éric Caravaca, les effets sur les cadrages, les escaliers, les espaces, tout ça est très beau. C'est une écriture assez dépouillée, à mon avis, qui rappelle le nouveau roman.
Oui, on est dans un cinéma d'un autre temps. On pense plus effectivement non pas au récent Godard, mais au vieux
Godard, ouais.
et ou même Antonioni par certains côtés, cette espèce d'hésitation des êtres, etc. Ces discours aussi, parce qu'en fait, c'est quand même un texte assez travaillé, assez littéraire. typique d'ailleurs de Garrel. Hein. Ces noirs et blancs sont magnifiques. D'ailleurs, je faisais la comparaison avec Hong Sang-soo qui est sorti à peu près en même temps et qui lui aussi est en noir et blanc. Mais alors, c'est un noir et blanc grisâtre, fadasse, celui de Hong Sang-soo, alors que celui de Garrel est un contraste, c'est extraordinaire. C'est vraiment, il profite au maximum de la qualité du noir et blanc. Quoi. Oui, c'est pas forcément une peinture, effectivement, d'une originalité extraordinaire. Là, je rejoins un peu Françoise. Enfin, on y prend un certain plaisir.
Ouais. Enfin, le ménage à trois est loin d'être mort.
Enfin, c'est pas forcément. Ben,
ça parle pas vraiment du ménage à trois.
C'est pas un ménage. Non, je pense, moi, qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un homme, un adulte, qui se trouve face à deux jeunes filles, dont sa propre fille, et qui est un peu perdu face à elle. Et c'est vrai que tu disais, Françoise, que c'est sans doute le film d'un homme. Bon, Garrel dit lui-même que l'inconscient féminin lui reste toujours un mystère. Hein, et donc, j'ai l'impression qu'il s'attaque.
Oui, puis c'est une critique aussi quand même de l'amour masculin, parce qu'en fait, ce quadragénaire se déclare finalement très ouvert. Et puis, il suffit qu'elle découche une nuit, finalement, pour que il soit jaloux et que finalement, il réagisse comme un mâle.
Normal.
Donc, finalement, là, il y a une critique assez forte, en fait, de cet intellectuel qui se veut très libéral et qui, finalement, ne l'est pas tant que ça. Quoi.
Ils ne sont pas de la même génération, en fait. Hein,
mais il a tout un discours...
macho.
ouvert.
C'est à noter, c'est elle qui part, c'est pas lui qui c'est elle qui part.
Ariane,
Ariane.
Oui, mais après, c'est elle qui lui dit qu'il lui avait fait de la peine, quoi, qu'elle lui avait fait de la peine.
Oui, mais bon, ça rappelle une phrase de Garrel qui disait que les femmes partent toujours les premières parce qu'elles savent que l'homme va les quitter bientôt. Et donc, elles anticipent souvent le moment. Je voulais revenir un petit mot sur la forme, effectivement, hein, qui est magnifique, le noir et blanc, tout ce travail, effectivement, de caméra. Un petit mot pour souligner aussi un aspect là qui apparaît fort, mais qu'on doit retrouver dans d'autres films de film Garrel, c'est ce côté pointillé des scènes. Il y a ces scènes qui se succèdent comme ça, sans lien, assez courtes.
Ouais.
Une espèce de... Alors, c'est marrant pour quelqu'un qui ne filme pas en couleur. On dirait du pointillisme.
Oui, c'était pointillisme.
C'est du pointillisme. Et ce pointillisme, finalement, dessine des figures.
Oui. Figures. Et en fait, c'est très souvent des scènes d'intérieur qui sont séparées par des déambulations dans Paris, très souvent la nuit, etc. Donc, on est dans un rythme assez.
Très nouvelle vague.
Bon, alors, ceci, donc, pour nous rafraîchir et pour nous renvoyer dans notre passé. Et nous allons maintenant faire une petite pause musicale. Nous allons maintenant parler d'un film africain. C'est assez rare sur nos écrans, mais cette année, nous avons déjà eu le beau film d'Alain Gomis, Félicité. C'est donc une année faste. Daouda Koulibaly est un jeune réalisateur franco-malien qui a grandi à Marseille et qui a débuté sa carrière comme monteur audiovisuel. Il réalise un premier court-métrage en 2009, Il était une fois l'indépendance, qui est inspiré d'un conte traditionnel. Et il est retenu pour le programme Focus Features Africa First, et dans ce cadre réalise un second court-métrage, Tignesso, sur le fossé entre les générations au Mali, qui est récompensé au FESPACO, le festival de Ouagadougou, en 2011. Et donc, alors je ne sais pas si on dit voulu ou vulu, peut-être que Yves m'a me corrigé, et son premier long-métrage. Alors, d'abord peut-être Yves, toi qui parles bambara couramment, que veut dire voulu?
Je ne sais pas si je parle bambara couramment.
Alors, c'est voulu ou c'est vulu?
Je ne sais pas.
Au
FESPACO, on parlait de voulu.
Voilà,
donc disons voulu, mais je ne garantis pas la prononciation. Alors, effectivement, le titre est important, d'ailleurs... Daouda Koulibaly nous donne le sens dès le dès le départ de son film, avant même que le film commence. Et Wulu, c'est le chien, mais le chien qui représente l'étape ultime de l'initiation, hein, de l'initiation des jeunes Maliens. Et c'est, bon, on va pas parler de l'ensemble des étapes, on va parler juste de cette étape, la dernière étape de l'initiation, qui est donc de savoir, pour l'initié, quelle est sa place dans la société. Hein. Voilà. Et c'est effectivement, c'est tout le sujet du film. Je crois que, je dirais d'abord que, avant de dire que c'est un thriller social, ou voilà, je dirais que c'est un film d'initiation. Hein. Mais alors, une initiation un peu particulière, qui n'a rien à voir justement avec les rites traditionnels qu'on peut voir dans les films ethnographiques. Hein. Car là, il s'agit pour Ladji, donc le héros, le jeune héros de ce film, il s'agit pour lui de savoir quelle est sa place, quel va être son avenir dans Bamako, mais dans le Bamako d'aujourd'hui. Hein, un Bamako fortement urbain, comme on le voit dès le début, dès les premières séquences du film. Et un Bamako dont il est loin de maîtriser les règles du jeu social et politique.
Alors, tu nous dis un mot du scénario.
Oui, un mot rapide. Donc, quand nous faisons connaissance avec Ladji, il est apprenti chauffeur. Alors, apprenti chauffeur, en fait, c'est simplement son travail, c'est de remplir le taxi brousse, d'alpaguer les passagers, de bien remplir le taxi et d'organiser un peu après, tout au long du voyage, puisqu'il accompagne le chauffeur, d'organiser les descentes, les montées des voyageurs. Son espoir, on le voit assez vite, son espoir est de devenir le chauffeur. Visiblement, c'est un grade supérieur. Et pense-t-il, ce qui améliore sa situation économique, qui est un peu précaire, sa situation à lui et aussi celle de sa sœur avec qui il vit, d'ailleurs sa sœur Aminata, qui de temps à autre se prostitue pour boucler un peu les fins de mois. Mais son espoir va être vite déçu, puisque le propriétaire du taxi-bus place son neveu, qui est bien sûr sans expérience, place son neveu comme chauffeur. Alors là, c'est assez surprenant, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que Ladji manifeste un mécontentement un peu violent, mais non, pas du tout. Il part immédiatement et il va s'adresser à des anciens comparses qui sont engagés sérieusement dans le trafic de drogue. Alors très vite, on va lui confier des missions de convoyage, à travers l'Afrique d'ailleurs, hein, il va devoir passer souvent les frontières, convoyage de bien sûr de cocaïne, qu'il effectue avec deux amis, et surtout qu'il réussit parfaitement bien, puisqu'il arrive même à déjouer les trahisons qui règnent dans ce milieu. Alors très vite, il va pouvoir se faire une place de choix dans ce milieu de la drogue, et il va devenir l'homme de confiance d'un certain Jean-François. Ce Jean-François, c'est un colon, d'une certaine façon, un colon blanc, mais d'un nouveau genre. Et Jean-François va lancer Ladji dans des missions de plus en plus périlleuses, puisqu'elles conduiront le héros jusqu'à commercer avec les djihadistes d'Acmi. En contrepartie, Ladji va connaître une ascension sociale fulgurante, hein, et qui va se traduire, à la demande d'ailleurs de sa sœur, qui va se traduire par la construction et l'aménagement d'une villa de luxe. Mais cette ascension, elle a un coût. Et ces coûts, c'est des meurtres tout à fait sacrificiels, un peu à l'image des scènes d'abattoir de bovins qui viennent scander de temps à autre le film. Donc on se demande bien où va s'arrêter l'engrenage dans lequel
est lancé. Oui, alors c'est un film qui utilise le genre du thriller, en fait, hein, du film de gangster, pour faire un film social, presque un film politique. Un peu comme d'ailleurs Doug Liman tout à l'heure détournait le film de guerre pour faire un peu un pamphlet anti-guerre. Alors Françoise, qu'est-ce que tu as pensé de Wulu?
Moi j'ai trouvé dans l'ensemble intéressant et assez captivant, surtout dans la première partie, parce que je trouve que le rythme se perd un peu de sa force dans la suite, et le propos devient obscur. Et en fait, si je veux revenir sur cette critique, on en a la confirmation à la fin du film. Il y a un déséquilibre dans le scénario qui fait que le metteur en scène est obligé de fournir quatre lignes d'explication pour replacer son film dans le contexte de corruption, parce qu'il n'a pas su assez bien l'expliquer avant. Voilà.
Oui, bon, je ne suis pas sûr. Bon, c'est vrai, hein, il l'a dit lui-même dans un certain nombre d'interviews, son film est une critique du pouvoir malien, hein, et pas uniquement de la corruption, mais aussi des compromis qui ont pu être faits avec les terroristes. Mais moi, je ne le réduirais pas quand même uniquement à cet aspect social qui est réel, hein, qui est juste, mais je pense qu'il a une autre portée.
Jean,
moi, j'ai bien aimé ce film, mais j'étais quand même un peu déçu parce que il part très fort quand il cite, par exemple, la société secrète des Ntomo, des Bambara, avec les cinq étapes. On a l'impression qu'on va vivre quelque chose de fort, et puis finalement, on tombe dans un petit truc, quoi. Et à la fin, c'est pareil. Il en remet une couche avec les quatre dernières lignes. Pour essayer de réélever un peu le niveau du film. Mais je trouve que le film est quand même un peu trop ras des pâquerettes et un peu raté à cause de ça. Même si j'aime beaucoup les films africains et le côté ethnographique, c'est un peu dommage de dire ça, mais est quand même vachement sympa.
Oui, et puis la vie à l'africaine est bien décrite, à la fois la loi de la jungle, mais une vie très grégaire et charnelle. Et je trouve qu'il montre bien les corps, par exemple ceux des hommes qui chargent les ballots sur les galeries ou qui sont sous la douche, ou les corps des femmes dans leurs boubous, bon, qui font tourner la tête des hommes. Enfin, ça, c'est un peu classique, mais ça fait partie des aspects positifs du film, qui est quand même intéressant.
Oh, oui, on s'ennuie pas.
Oui, hein, et ça, puis alors, il y a un côté un peu presque documentaire dans le film sur les différentes façons justement de transporter la drogue, ses liens avec les djihadistes, etc. Donc il y a ce côté qui est assez intéressant pour nous aussi. Yves, tu voulais...
Oui, tout à fait. Non, mais cet aspect documentaire est très juste, hein, et je crois qu'il est... Il a dû s'informer sérieusement. Il a commencé le film, a été tourné d'abord au Mali, mais les événements l'ont obligé à le finir au Sénégal.
Ouais.
Voilà. Donc, mais je pense que c'est quelqu'un qui s'est nettement informé. Bon, on peut peut-être dire que déjà son expérience de Marseille donnait quelques idées. Par contre, moi, j'en ferais pas un film ethnographique, hein, pas du tout. Je suis pas sûr que, enfin, pas au sens où on l'entend habituellement, hein, des films africains sur les traditions. Moi, je voudrais revenir sur un personnage qui peut paraître Fallo, qui est Fallo de fait, qui est le personnage de sa sœur Aminata. Et c'est un personnage Fallo. Mais en fait, plus on avance dans le film, et surtout à la fin, on découvre que c'est un personnage essentiel, non pas en tant que tel, mais en tant que moteur de la G.
Oui.
Parce qu'en fait, la G...
Oui.
En fait, il veut la sortir, sa sœur.
Oui. Tout ce qu'il fait, c'est pour elle, en fait.
Tout ce qu'il fait, c'est pour elle.
Il s'en fiche complètement, lui, d'avoir... Oui, il s'en fiche complètement d'avoir une belle maison, lui.
Oui. Lui,
c'est elle qui
s'en fiche, oui. On ne sait pas ce qu'il pense, il ne dit jamais rien. Il exécute, c'est le cas de le dire d'ailleurs.
Mais il est intelligent.
Il est intelligent, débrouillard, oui. Mais on se demande quel est son vrai désir. Oui. Et en fait, son désir, c'est le désir de sa sœur.
Contenter sa sœur.
Et en fait, il forme une espèce de couple gemellaire.
Oui, c'est vrai.
Voilà,
oui, c'est vrai.
Et je trouve que c'est ça. On va dévoiler le film ici, mais les deux dernières scènes sont parlantes à ce niveau-là. Et c'est pour ça, je dis que peut-être aussi c'est un peu sa faiblesse.
Oui, c'est sa faiblesse, parce qu'on comprend pas bien psychologiquement pourquoi il agit. Quoi. Oui. C'est un peu dommage.
Peut-être qu'il court de lièvre en même temps.
Oui.
Peut-être,
donc c'est un film qui est intéressant, parce qu'il a effectivement plusieurs aspects. Et puis, comme on disait au début, il n'y a quand même pas beaucoup de films sur l'Afrique noire. Donc, on vous encourage à le voir. Alors maintenant, nous allons passer à nos coups de cœur. Donc, Françoise, tu voudrais nous parler de Nothingwood.
Alors, Nothingwood, c'est un documentaire franco-afghan qui a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes, de Sonia Kronlund, qui est bien connue des auditeurs de France Culture, où elle anime depuis 15 ans l'émission Les Pieds sur Terre l'après-midi. Pourquoi tu ris ?
Oui.
C'est son premier film et il résulte de ses nombreux voyages en Afghanistan. Là-bas, elle a rencontré un grand amoureux du cinéma, Salim Shahin, qui est très populaire, et qui a déjà réalisé une centaine de films malgré le contexte politique de guerre et de terrorisme depuis 40 ans, depuis le début de l'invasion soviétique en Afghanistan en 79. Et elle fait de ce personnage plein d'énergie et de courage le sujet de Nothingwood. Alors pourquoi ce titre ? Shaheen l'explique, ce n'est ni Hollywood ici en Afghanistan, ni Bollywood, ni Nothingwood. On n'a pas un sou, c'est rien Wood. Et voilà, le grand mérite de ce film, c'est de nous montrer l'Afghanistan sous un autre jour que celui qu'on connaît habituellement.
Oui, je crois qu'il est assez drôle. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu, mais tous ceux
oui,
qui ont
vu... Oui, on rit bien. Et il montre que l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante.
Voilà, donc si vous voulez tout savoir sur le cinéma en Afghanistan, allez voir Nothingwood. Jean, tu veux nous parler alors de quelque chose de très différent, oui. Le grand méchant renard.
Ouais. Alors, au cours de cette émission, nous avons parlé d'un film de guerre, de films sur les difficultés de vivre en France ou ailleurs, en Afrique. Et bien maintenant, je vais vous faire part d'un adorable petit film d'animation français de Benjamin Renner, le grand méchant renard. J'y ai beaucoup ri, presque plus que le petit garçon qui était un rang derrière moi. Un rire franc, net, sans arrière-pensée, devant toutes les trouvailles du metteur en image. C'est en fait trois récits où l'on s'amuse avec une cigogne feignante qui confie son bébé à livrer à un cochon malin et à un lapin et un canard débile. Puis, avec un renard qui veut se faire aussi méchant que le loup, et qui vole 3 œufs dans l'espoir de manger quelques mois plus tard des poulets. Et enfin, retour des cochons, lapins et canards qui volent au secours du Père Noël. Un exemple. Quand les petits poussins éclosent, ils prennent bien sûr le renard pour leur maman et veulent, comme tout renard qui se respecte, croquer des poulets. Vous voyez, ce n'est ni du Godard, ni du Scorsese, mais vous sortez de la salle de cinéma sur un petit nuage. Et par les temps qui courent, c'est déjà pas mal.
Oui, voilà. Alors, donc, pour tous les parents et grands-parents qui cherchent des idées pour emmener leurs petits-enfants,
il faut qu'ils aillent.
Le grand méchant renard. Encore que je ne suis pas complètement sûr de savoir à quel âge ça. Parce qu'il faut un certain humour, sans doute.
Les tout-petits.
Les tout-petits riaient quand même.
Les tout-petits ou les grands, les très grands, voilà.
77, comme on dit.
C'était joliment dessiné. Hein.
Un très bon film pour enfants est aussi un très bon film pour adultes.
C'est vrai. Non, mais c'est quelquefois les ados qui ont le plus de mal à apprécier. Yves, tu veux nous parler alors de quelque chose de complètement différent, la rétrospective de Jean Rouch.
Oui, alors je veux vous parler de Jean Rouch parce que cette année, c'est le centenaire, on célèbre le centenaire de la naissance de Jean Rouch. Alors Jean Rouch, certains le connaissent déjà. Beaucoup de gens n'ont pas entendu parler, donc c'est peut-être l'occasion, pour ceux qui le connaissent, de le redécouvrir, puisqu'on l'avait peut-être un peu oublié, pour ceux qui ne le connaissent pas, de le découvrir. Alors, qui est Jean Rouch ? Au départ, c'est un ingénieur des ponts et chaussées, et qui va partir avant-guerre, d'ailleurs avant la Deuxième Guerre, qui part au Niger pour construire des routes, des ponts, et il va se passionner pour l'Afrique. Puisqu'il va passer dans les villages et il va être le témoin des rites, des pratiques rituelles, des séances de magie. Et comme c'est un passionné de cinéma aussi, c'était un grand cinéphile, eh ben, il va se servir du cinéma pour toutes ses enquêtes ethnographiques. Voilà. Et on va faire de lui ce qu'on appelle l'inventeur, le pionnier du cinéma vérité. C'est un peu d'ailleurs les cinéastes de la nouvelle vague qui vont lui donner ce qualificatif, parce que, et notamment Jean-Luc Godard considérait Jean Rouch comme véritablement un des inventeurs de la nouvelle vague, justement, par son cinéma vérité, ce cinéma direct. Alors, ce qui est fabuleux chez Jean Rouch, c'est que, même dans ses films dits ethnographiques, il mêle toujours des éléments de fiction. C'est important. Ah oui. Ce qui fait que, et en plus, ces éléments de fiction sont souvent teintés d'humour, et d'un humour qui met un peu à distance. On disait de Jean Rouch que c'était le cinéaste, que c'était un homme du comme-si. Comme si je jouais, comme si tout d'un coup j'étais ethnologue, comme si j'étais cinéaste, comme si. C'est toujours cette distance, mais une distance très empathique, vraiment très très empathique, puisque même... en Afrique, on l'appelait l'Africain blanc. Et effectivement, cette empathie, d'ailleurs, l'a conduit, c'est ça aussi, c'est extrêmement important, l'a conduit à former parmi les gens qui étaient ses informateurs ou qui étaient les protagonistes de ses films, à les former au cinéma. Et on peut dire que les premiers cinéastes nigériens, les pionniers du cinéma du Niger, sont les...
Et là, je crois que c'est 6 films qui vont repasser, hein, c'est ça?
Alors là, voilà, il y a 6 films qui sortent actuellement en salle. Bon, je ne vais pas...
Je ne vais pas dire tous les noms, mais...
Alors bon, dans les plus connus, en tout cas pour moi, ceux dont je me souviens bien, c'est Moine Noir, ouais, qui est magnifique, hein, qui est...
Le plus classique.
Qui est un des plus classiques. Il y a aussi la chasse au lion.
Ah oui, la chasse au lion.
Voilà. Voilà. Donc vraiment, voilà, si vous connaissez ou ne connaissez pas, allez revoir Jean Rouch, voilà, en cette année de centenaire.
Alors, on va terminer les coups de cœur par quelque chose de complètement différent. On va revenir à la fiction et au cinéma d'auteur français avec François Ozon. François Ozon, qui donc sort L'Amant Double, qui a sorti il y a quelques semaines L'Amant Double. Alors, vous savez que François Ozon aime rendre très fluides les frontières entre le réel et l'imaginaire. Et dans un de ses derniers films, par exemple, Dans ma maison, on ne savait plus très bien où s'arrêtait la réalité et où commençait la fiction littéraire. Alors, il récidive avec assez de brio dans ce film, en s'appuyant non plus sur la création littéraire, mais sur les fantasmes et la psychiatrie. Donc, le sujet, c'est Chloé, une jeune femme qui a des maux de ventre depuis l'enfance, et son médecin, qui ne lui trouve rien, l'oriente vers un psychiatre, Paul. Alors, Paul est séduisant, il l'écoute, il tombe amoureux, et ils s'installent ensemble. Mais très vite, elle va découvrir que Paul lui a caché une partie de sa vie et qu'il a un frère Louis, également psychiatre, et jumeau. Elle le rencontre, il est aussi brutal que Paul est doux, bien sûr ils se ressemblent, ils sont jumeaux, et elle va en faire son amant et va chercher à découvrir les lourds secrets que les deux frères semblent cacher. Alors à partir de là, bien sûr, je ne peux plus raconter l'histoire, car ce serait gâcher le plaisir du spectateur, car tout dépend évidemment du suspense. Alors ce film sur la gémellité est construit comme un thriller, les personnages évoluent dans des décors glacés, et alors c'est intéressant parce que le piqué de l'image semble souligner la réalité, mais est-ce bien la réalité ou n'est-ce qu'un rêve ? Ozon reprend à son compte la recette de Buñuel qui filmait les rêves exactement comme la réalité. Donc il n'y a pas d'image floutée ou colorée pour indiquer les rêves, il n'y a pas de réveil en sursaut pour comprendre que c'était un cauchemar. Le spectateur doit dénouer peu à peu le fil de l'intrigue qui est diaboliquement construite par le réalisateur. C'est un film peut-être un peu intellectuel, mais passionnant. Voilà. Donc je crois qu'est venu le temps de rendre l'antenne. Merci à Françoise, Jean et Yves qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés et à qui nous disons bon été et à bientôt. Chant contre chant est programmé tous les 4e mardis du mois de 13h15 à 14h. Nous vous donnons donc rendez-vous le mardi 25 juillet.